travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Cela fait maintenant 3 semaines que la gauche et la droite passent leur temps à s'envoyer des boules puantes. Et il faut dire qu'ils ont de la matière. Évasion fiscale, financement occulte, abus de biens sociaux, trafic d'influence, corruption, achat de voix, écoute, mensonge. C'est un spectacle écœurant. Une fois dans la place, combien de politiciens se sentent tout permis et agissent comme s'ils étaient au-dessus des lois? Et le système pousse dans ce sens. Prenons l'appareil d'État. Il est bâti pour fonctionner de haut en bas, avec un réseau de hauts fonctionnaires, non élus, inconnus de la population, incontrôlables. Les présidents de la République sont mis au-dessus de tout, au-dessus même de la justice, puisqu'ils sont protégés par leur immunité. Et surtout, le monde de ces politiciens est celui de la bourgeoisie, celui de l'argent facile, où les renvois d'ascenseurs sont une manière de vivre. Oui, la caste politique est à l'image de notre société, une société pourrie par l'argent, par les privilèges et la réussite individuelle. Tous les politiciens ne sont pas pourris, mais tous, en revanche, gouvernent pour servir les intérêts des plus riches et du grand patronat. Et s'ils se ressemblent, c'est qu'ils ont tous été formés et sélectionnés pour leur fidélité à la bourgeoisie et au système. Ils placent tous leur activité politique dans le cadre de la propriété privée des entreprises, dans le cadre des lois du marché, du profit et de la concurrence et de la bourgeoisie. Y compris le Front National, qui ne cesse de dénoncer le système UMPS pour cacher sa dévotion au système capitaliste. La priorité de tous ces politiciens, ce sont les affaires de la bourgeoisie, les profits de la bourgeoisie, la compétitivité de la bourgeoisie. Quant aux travailleurs ou aux chômeurs, ils sont toujours priés de patienter le temps que l'économie aille mieux. Pour cette caste politique, les travailleurs ne sont que les soutiens de l'économie, sommés de s'adapter et d'accepter leur sort d'exploité. Et il n'y a aucune pitié, aucune mesure favorable à attendre de ces gens-là. Et puisque les élections municipales du 23 mars nous donnent la possibilité de dire ce que nous pensons d'eux et de leur politique, il ne faudra pas s'en priver. Les travailleurs doivent se saisir de ces élections pour rejeter ce spectacle politicien et faire entendre leur opposition à la politique patronale, qu'elle soit menée par la droite ou par la gauche. Hollande s'est fait élire, je vous le rappelle parce qu'on l'a peut-être oublié, sur le slogan « Le changement, c'est maintenant ». Il a continué la politique de Sarkozy. Sarkozy était le président des riches, on peut dire que Hollande est le président des patrons. Depuis qu'il est au pouvoir, Hollande a satisfait toutes les exigences patronales, sans hésiter à faire reculer la condition ouvrière des années en arrière. Les patrons ont demandé plus de flexibilité, ils l'ont obtenu. Ils ont voulu un crédit d'impôt compétitivité, ils l'ont eu. Ils voulaient baisser les droits à la retraite des travailleurs, Hollande l'a fait, en aggravant la réforme Sarkozy. Quant à la bataille pour l'emploi, elle est encore le prétexte pour verser des milliards au patronat. Depuis que le gouvernement ne peut plus nous lanterner avec son histoire d'inversion de la courbe du chômage, il cherche à nous enfumer avec le pacte de responsabilité qui est présenté par tous les médias comme quelque chose de nouveau, comme une tentative inédite pour lutter contre le chômage. Quelle comédie ! La seule chose inédite dans cette affaire, c'est l'importance du cadeau octroyé au patronat, 30 milliards d'euros. Mais ce pacte de responsabilité est ajouté à la longue liste des allègements de cotisations patronales qui n'ont jamais créé d'emplois dans le passé et qui n'en créeront pas plus dans l'avenir. Le gouvernement, aidé comme à son habitude de la CFDT, fait croire qu'il y aura des contreparties en termes d'emploi. Mais le patronat le dit clairement. Il n'y aura pas de contrepartie. Il prendra les 30 milliards, un point c'est tout. Hollande et Hérault savent à quoi s'en tenir depuis le début. Ils savent que dans cette période de crise, le grand patronat licencie à tour de bras et qu'il n'envisage pas une seconde d'embaucher. Et d'ailleurs, le gouvernement ne veut pas le contraindre. Sa politique est à l'exact opposé. Ce sont les patrons qui fixent leurs conditions et le gouvernement qui obtempère. Hollande et Hérault sont les hommes à tout faire du grand patronat. Ils sont à leur service et ils ne conçoivent pas d'autre politique que de lui servir la soupe. Et cette bataille pour l'emploi, C'est le grand alibi pour imposer des reculs inédits aux travailleurs, pour permettre à la bourgeoisie de se servir directement dans les caisses publiques pour augmenter les profits. Et pendant qu'ils nous joueront cette comédie du pacte de responsabilité, eh bien les lettres de licenciement tomberont pour les travailleurs de Goodyear, pour ceux de Maury-Ducrot, pour les salariés de la Redoute. Alors même que Goodyear fait des bénéfices, alors que le groupe Pinault, qui vient de vendre la Redoute pour sous-traiter justement les licenciements, est un groupe qui prospère. Eh bien, il faut que les travailleurs affirment qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils rejettent cette politique pro-patronale. Le gouvernement nous rabâche que sa politique favorable au patronat est bonne pour tout le pays. Mais une poignée de parasites richissimes ne fait pas un pays. L'écrasante majorité de la population est composée de travailleurs et de leurs familles, qu'ils soient au travail, au chômage ou à la retraite. Et ce sont eux qui sont indispensables au fonctionnement de l'économie. Sans leurs bras et leurs cerveaux, comment la société tournerait-elle ? Les forces vives de la société, c'est eux. Alors les travailleurs doivent relever la tête et affirmer contre le patronat et le gouvernement leurs revendications et leurs exigences. La cure d'austérité que le gouvernement est en train de nous concocter fait partie du même plan d'attaque. Le gouvernement a promis de faire 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques d'ici 2017. Pour trouver ces dizaines de milliards, le gouvernement aura l'embarras du choix parce que les propositions de coupes drastiques fusent de tous les côtés. Mais évidemment, tant que les élections ne sont pas passées, le gouvernement garde le secret sur les sales coups qu'il prépare. Ce qui est sûr, c'est que ce seront les classes populaires qui paieront, parce que le gouvernement ne touchera pas aux dépenses publiques faites en faveur du patronat. Il ne touchera pas aux 50 milliards que l'État verse annuellement aux banquiers en intérêt de la dette. Il ne touchera pas aux milliards versés à Dassault au titre de l'achat de Rafale et autres gadgets militaires. L'État continuera de servir de vache à lait aux grands groupes capitalistes. En revanche, il touchera à l'argent des communes, des départements, des régions. Il demandera à tous les ministères de serrer la vis. Et il imposera des restrictions aux hôpitaux, à l'éducation nationale. Cela sonnera la fin aussi de certaines aides et de subventions aux associations. Et tout ce que les services publics n'assureront plus, eh bien, il faudra le payer, en passant par des entreprises privées. Alors, pour les travailleurs, il ne s'agira pas d'économie, mais bien de sacrifices supplémentaires. Alors ce gouvernement, c'est un ennemi des travailleurs, et il faut le combattre avec la même détermination que l'on mettrait à combattre un gouvernement de droite. Cela fait des décennies que le système politique fonctionne ainsi. La gauche succède à la droite aux affaires, puis la droite à la gauche, et ainsi de suite, avec quelques changements dans les mots, mais une politique fondamentalement semblable. Et crise oblige, le patronat s'est fait plus exigeant ces dernières années, et il est revenu au Parti socialiste, parce que c'est lui qui est au pouvoir, de prendre depuis 2 ans les mesures les plus rétrogrades, les plus régressives que l'on ait vues depuis bien longtemps. Je parle par exemple de l'accord national interprofessionnel, cet accord pourri que les socialistes ont transformé en loi et qui donne la possibilité au patronat, comme ils le réclamaient depuis si longtemps, de pouvoir baisser les salaires en toute légalité ou de se débarrasser même de la notion de CDI. Et je parle aussi de la compétitivité et de la baisse du coût du travail. Car pour les travailleurs, la compétitivité, c'est le grand retour en arrière. C'est l'exploitation, c'est le travail précaire, ce sont les salaires de misère. Et le prétendu coût du travail est un mensonge. C'est de la propagande patronale. Car le travail ne coûte pas aux capitalistes, il leur rapporte. Si embaucher des travailleurs coûtait plus cher aux patrons que cela leur rapporte, cela fait belle lurette qu'ils auraient fermé la dernière usine, le dernier bureau, la dernière ligne de bus, le dernier hypermarché de ce pays. Non, les travailleurs n'ont pas à se laisser prendre piège de la propagande sur la compétitivité. Les patrons cachent leur cupidité derrière ce discours sur la compétitivité. C'est leur raison d'être, mais pas celle des travailleurs. Les travailleurs doivent revendiquer leur dû, sans se soucier des conséquences sur cette compétitivité et sans se soucier surtout de gêner les affaires de la bourgeoisie. La seule perspective pour la classe ouvrière est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. Et si la bourgeoisie et ses serviteurs politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum vital aux travailleurs, eh bien qu'ils laissent la place. Si ce système capitaliste n'est pas en mesure de garantir aux exploités leurs droits élémentaires à avoir un emploi et à en vivre, eh bien il faut le renverser. Oui, la lutte de classe existe, mais pour le moment, il n'y a que la bourgeoisie qui l'amène. Et si les travailleurs ne l'amènent pas, c'est à cause de leur direction. Les grands partis de gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste, ont une responsabilité majeure et ancienne dans la démobilisation des travailleurs. C'est peu dire que ces partis ne combattent plus les pressions idéologiques de la bourgeoisie dans la classe ouvrière. Ils contribuent à les distiller eux-mêmes. Aujourd'hui, le Parti socialiste ne prétend même plus représenter les intérêts des exploités. Il a enterré toute idée de transformation sociale. Et il voudrait, comme le patronat, enterrer aussi les mots comme « exploité », « classe ouvrière », « lutte de classe » et surtout ne plus entendre parler de conscience de classe. Quant au Parti communiste, qui a gardé une influence plus grande dans la classe ouvrière, il a aussi une responsabilité majeure dans la démoralisation. Faut-il rappeler que c'est le Parti communiste qui a fait de Mitterrand, homme politique bourgeois par excellence, un homme de gauche ? Faut-il rappeler que c'est le Parti communiste qui a redonné crédit aux dirigeants socialistes rejetés par la population après avoir envoyé des centaines de milliers de jeunes mener une sale guerre coloniale en Algérie ? Le PCF a ensuite usé son crédit pour soutenir le gouvernement Jospin. Et enfin, il a permis, avec Jean-Luc Mélenchon, l'élection de Hollande. Et ils s'en sont même vantés. Tout cela au nom de l'idée qu'il n'y aurait point de salut pour les travailleurs sans l'arrivée de la gauche au pouvoir. Eh bien, tout cela ne pouvait que dégoûter, démoraliser un nombre croissant de travailleurs, à commencer par les militants ouvriers eux-mêmes, et en particulier par ceux du Parti communiste. Car c'était à eux que revenait la tâche de défendre l'indéfendable devant leurs camarades de travail. C'était à eux que revenait le sale boulot de lanterner leurs camarades de travail. Combien de fois les ministres communistes se sont-ils retrouvés à justifier la rigueur salariale, les reculs des services publics, les privatisations, mettant en porte-à-faux les militants de leur propre parti? Et combien de ces militants se sont sentis trahis et ont abandonné l'activité militante? Alors, loin de diffuser la conscience de classe, le Parti communiste a été le vecteur de l'électoralisme. Eh bien, il n'y a rien de plus illusoire et de plus démoralisant. Et il faut en tirer la leçon. Il est vain d'espérer changer efficacement la vie des travailleurs par les élections. La seule voie véritablement efficace pour changer la vie, pour les travailleurs, est celle des luttes collectives contre le grand patronat capitaliste pour lui contester la direction de l'économie. Quant aux confédérations syndicales, elles partagent avec les grands partis de gauche la responsabilité de la démobilisation des travailleurs et du recul de la conscience de classe. Au lieu d'expliquer aux travailleurs que leur sort dépend du rapport de force qu'ils seront imposés face au patronat, ces directions syndicales font mine de prendre au sérieux les mensonges du patronat, estampillés d'ailleurs par le gouvernement. Elles cautionnent la politique de négociation à une période où il est patent que le patronat ne peut rien négocier si ce n'est des mesures qui aggravent la situation des travailleurs. Il ne faut pas être dans l'opposition, mais dans la proposition, disent-elles. Il ne faut pas être dans une attitude négative, mais avoir une attitude constructive, disent-elles. Mais pendant ce temps, les licenciements se multiplient. Le chantage à la compétitivité fait reculer les conditions de travail et des millions de travailleurs sont menacés dans leur existence même. Alors ce ne sont pas les travailleurs qui se détournent des syndicats. Ce sont les directions syndicales qui tournent aujourd'hui le dos aux travailleurs en se refusant d'organiser leur défense. bien heureusement, les organisations syndicales, ce ne sont pas seulement des directions bureaucratiques coupées du monde du travail. Ce sont essentiellement les militants qui, dans leurs entreprises, sont confrontés à la lutte de classe et se battent comme ils peuvent. Et bien des choses dépendent de ces militants, de leur état d'esprit et de leur capacité de comprendre le pourquoi de la politique de leur direction et le pourquoi de la désaffection des travailleurs à l'égard des syndicats. Et il est important que ceux qui se posent des questions mesurent la responsabilité des partis de gauche dans la démobilisation des travailleurs. Et surtout, qu'ils surmontent ce qui fut la plaie des méthodes staliniennes, c'est-à-dire le fait de faire les choses sans les travailleurs et même de se méfier d'eux. Ils doivent reprendre confiance dans la classe ouvrière, s'appuyer sur leurs camarades de travail et sur les plus combatifs. Car lorsque les travailleurs décideront de se lancer dans le combat, eh bien ils se lanceront et ils se battront avec la détermination que l'on a vue chez les ouvriers de Peugeot à Aulnay ou encore de ceux de Continental. Le capitalisme est plus révoltant que jamais, car la richesse est incomparablement plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un siècle ou un siècle et demi. Au début du capitalisme, l'exploitation féroce de la bourgeoisie avait de quoi révolter. Mais les richesses issues de cette exploitation n'étaient encore qu'un îlot de prospérité dans un océan de misère rurale. Aujourd'hui, la bourgeoisie baigne dans un océan de richesses. Mais ces richesses, au lieu d'être un avantage pour la société, sont devenues un frein, un facteur de spéculation, de crise, de chômage et de misère. Un chiffre résume la folie du capitalisme. Les 85 premières fortunes du monde détiennent l'équivalent de ce que possède la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 3,5 milliards de femmes et d'hommes. Ce décalage extravagant entre l'étalage de richesses de la classe exploiteuse, ses jets privés, ses hôtels particuliers, ses produits de luxe et la pauvreté, voire la condition d'affamé d'une partie de l'humanité, ne peut pas perdurer. Sous prétexte que les riches ont le droit d'investir leur fortune où ils le veulent, y compris de les jouer au casino ou de la spéculation, il faudrait accepter le gâchis effroyable de ces possibilités productives. En dépit des progrès scientifiques et techniques et de l'accroissement fantastique des moyens de production, il faudrait s'interdire de maîtriser les conséquences de l'activité humaine sur la nature, sur l'environnement. Il faudrait continuer de condamner une partie de la planète au sous-développement, à la barbarie, aux guerres. Combien de pays sont aujourd'hui à feu et à sang ? La Syrie s'enfonce dans une guerre atroce. En Afrique, le génocide rwandais n'a pas mis fin aux atrocités. Elles se sont poursuivies au Congo et elles s'étendent aujourd'hui en Centrafrique, où l'intervention de l'armée française ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Et ici même, en Europe, après la chute du régime autoritaire et corrompu de Yanukovych, sous la pression de la contestation populaire, l'Ukraine s'enlise dans les affrontements entre nationalismes rivaux, faute d'autres perspectives. Le pourrissement dans lequel s'enfonce une partie de la planète ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur nous. Et le fait même que l'armée française soit engagée dans les guerres impérialistes le montre. Quant aux événements en Ukraine, ils se déroulent aux portes de l'Europe. Mais la situation pèse aussi sur nous tous à un autre niveau. La misère et le chômage vont de pair avec le chacun pour soi, avec le délitement moral de la société, avec le repli sur soi, et ils favorisent la résurgence des idées réactionnaires, du sexisme, des idées religieuses. La remontée des idées racistes, antisémites et communautaristes, qu'elles soient exprimées par Dieudonné, par Marine Le Pen ou par le ministre Valls, fleurit sur le terreau du capitalisme qui dégénère. Et si nous faisons le choix de défendre une politique qui se place exclusivement sur le terrain de la classe ouvrière, c'est qu'elle est la seule classe qui peut s'attaquer à la racine même du capitalisme. La classe ouvrière est la seule force porteuse d'autres valeurs que celles du nationalisme et de l'individualisme. Elle est la seule classe capable d'empêcher la société de prendre un cours réactionnaire. Oui, les travailleurs sont la seule force progressiste de notre temps. Mais pour emmener la société vers une société vraiment humaine, eh bien, il faut que les exploités reprennent leur combat pour leurs intérêts de classe et qu'ils affrontent la classe capitaliste. Si, à notre échelle, nous pouvons contribuer à faire vivre ou conforter cette conscience de classe, ne serait-ce que dans une petite fraction de la classe ouvrière, il faut le faire. Car c'est cette conscience qui peut, dans une période de remontée des luttes, transformer les travailleurs isolés en une classe sociale agissante, en une force politique capable de peser. Il faut que la classe ouvrière se manifeste dans toutes les occasions de la vie politique et qu'elle mette en avant son programme, les valeurs de son camp, sa propre politique. Il faut qu'elle le fasse aussi dans les élections. Ce sera le sens des listes Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, que nous présenterons aux élections municipales et aux européennes. Aux municipales, il y aura 204 listes Lutte ouvrière dans les grandes villes et dans les villes ouvrières du pays. Quant aux européennes, nous présenterons des candidats dans toutes les circonscriptions du pays, y compris dans la 8e circonscription des Dom-Tom, où les militants de Lutte ouvrière à La Réunion se présenteront en commun avec nos camarades de combat ouvrier qui militent aux Antilles. Mais les élections municipales, qui sont donc les premières qui viennent, seront la première occasion qui sera donnée aux travailleurs de dire ce qu'ils pensent de la politique du gouvernement. L'occasion pour exprimer leur colère contre la politique anti-ouvrière du gouvernement et affirmer leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation. Patienter, espérer une hypothétique reprise, voilà tout ce qu'offre le gouvernement aux travailleurs. Alors qu'il y a urgence, alors qu'à cause du chômage, des millions de travailleurs sont menacés, eh bien il faut des mesures radicales et contraignantes. Sauf à interdire les grands groupes de licenciés, on n'arrêtera pas la montée du chômage. Sauf à se mettre en travers des intérêts du grand patronat, on ne stoppera pas l'hémorragie. Il n'y a pas de travail à donner à tous, répondront les patrons. Eh bien, qu'on impose qu'il soit réparti entre tous, sans diminution de salaire. Et pour résorber le chômage, parce qu'il y a 5 millions de femmes et d'hommes qui sont privés d'emploi aujourd'hui dans le pays, eh bien, il faut des embauches. Partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insupportables, partout où les salariés ne peuvent plus poser leurs congés. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux, où tous les 6 mois, un travailleur en remplace un autre, mis au chômage. Oui, cela coûtera au patronat. Mais les grands groupes ont de quoi payer. Et à défaut, qu'ils puisent dans les fortunes accumulées par les grands actionnaires. Quant aux difficultés des plus petites entreprises, c'est à celles plus riches d'y parer. Et aux banques. L'État a aidé les banques pendant la crise, à coups de centaines de milliards, en prétendant qu'elles étaient indispensables pour financer l'économie. Eh bien, qu'elles le fassent donc aujourd'hui. Mais les travailleurs n'ont pas à être sacrifiés pour les entreprises qui sont éclopées de ce système capitaliste. Tout cela n'est irréaliste que si l'on considère que les fortunes de la bourgeoisie sont intouchables. Mais dans une société normalement constituée, l'évidence imposerait qu'en période de crise, l'argent serve d'abord à sauver les emplois, à sauver ce qu'il y a de plus essentiel et de plus vital à la population. Et pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1700 euros net. Et il faut obtenir qu'il augmente, au même rythme que les loyers, que le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, et ce, non seulement pour les salaires, mais aussi pour les pensions de retraite et pour les minima sociaux. Ces deux objectifs sont liés aussi à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises et de faire la transparence sur les circuits de l'argent. Cette question est revenue sur le devant de l'actualité avec en particulier l'affaire Copé. À cette occasion, vous avez peut-être entendu Guénot, député UMP des Yvelines et ancien conseiller de Sarkozy, dénoncer cette transparence en dénonçant le voyeurisme, la société du soupçon, l'inquisition et la chasse aux riches. Mais prenez un ouvrier ou un employé. Qu'est-ce qu'il peut cacher à son patron ou à son banquier? Un patron connaît ce qui est versé, bien sûr, sur le compte en banque de ses salariés. Il connaît aussi leur situation maritale, le nombre de leurs enfants, leurs problèmes de santé. Et s'il veut faire une enquête sur leur engagement syndical ou politique, il a tous les moyens de le faire. Et ces gens-là, les Guénaud et compagnie, trouvent ça tout à fait normal. Eh bien, nous, ce que nous trouvons normal, c'est de demander des comptes à tous ces messieurs qui sont des menteurs professionnels parce qu'il ne faut pas leur faire confiance. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes pour la transparence, mais la vraie, celle évidemment qui oblige les politiciens à rendre des comptes, c'est le minimum, mais aussi celle qui permet de savoir où passent les millions produits quotidiennement par les travailleurs. La vraie transparence doit s'exercer vis-à-vis de l'ensemble de la bourgeoisie, et surtout la grande. On nous dit tous les jours qu'il n'y a plus d'argent pour embaucher ou pour augmenter les salaires, qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, pour les retraites. Mais on voit aussi que les plus fortunés continuent de dilapider de l'argent dans des caprices de riches. On voit les paradis fiscaux prospérer. On voit que la spéculation continue à coups de milliers de milliards. Alors oui, il faudrait connaître les circuits de l'argent. Connaître non seulement les comptes des riches, mais aussi les comptes de ces grands groupes qui licencient, qui compriment les salaires, qui signent des contrats de rapace avec leurs sous-traitants. Le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat pour imposer leur domination. Eh bien, il faut que la levée de ce secret fasse partie du programme des travailleurs. L'interdiction des licenciements, l'échelle mobile des salaires et le contrôle des travailleurs sur les comptes des capitalistes dépend du rapport de force que les travailleurs seront en mesure d'imposer au patronat. Il dépend d'une mobilisation générale. Mais cette mobilisation ne se décrète pas. Et il ne dépend pas d'un petit groupe ni d'aucun parti de changer la société. Les changements sociaux ont toujours été provoqués par l'intervention des masses sur la scène politique, par l'évolution de l'état d'esprit de millions de travailleurs. Quel sera-t-il demain ? Personne ne peut le prédire. La situation est mouvante. Elle peut changer dans un sens comme dans un autre. Mais si, à notre petite échelle, nous pouvons contribuer à populariser ce programme dans la classe ouvrière, il faut le faire. Et les élections qui viennent nous en donnent l'occasion. Nous avons dit et répété que ces élections municipales ont beau être des scrutins locaux, les votes auront une signification nationale. Tous les votes en faveur des uns et des autres seront portés au crédit des partis, du Parti socialiste au Front national, et ils seront compris comme l'approbation de leur politique. Les hommes politiques de gauche, mais aussi de droite, par hypocrisie et par crainte que le discrédit de leur parti ne leur nuise, se démarquent, bien sûr, de la politique nationale. Et ils insistent sur le caractère local de ces élections municipales. Mais cela ne doit tromper personne. Quant à croire que les municipalités peuvent faire quoi que ce soit pour protéger les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les handicapés, les enfants, c'est un leurre. Aucune municipalité n'a les moyens de combattre le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Et même celles qui sont de bonne volonté à l'égard des plus pauvres ont à composer avec les étages supérieurs de l'appareil d'État, avec les préfectures, les ministères. Et surtout, parce que ces possibilités d'intervention ne font que diminuer avec la crise. Et les 50 milliards de coupes budgétaires que le gouvernement a décidées auront forcément des répercussions localement et sur toutes les municipalités. Et puis c'est sans compter que beaucoup de notables locaux ont leur part de responsabilité dans la politique de classe que mène leur parti au pouvoir central. Alors les travailleurs, les chômeurs, les retraités, écœurés par la politique du gouvernement, doivent se saisir de ces élections pour dire leur colère. Et la dire avant tout aux deux coteries, à la droite et à la gauche, qui se relayent au pouvoir pour mener fondamentalement la même politique consistant à aggraver la situation des classes laborieuses au profit de la grande bourgeoisie. Tant que nous ne sommes pas capables de les chasser, nous sommes peut-être obligés de les subir. Mais rien ne peut nous obliger à les approuver et à redemander des coups en votant pour eux. Et il y a aussi les listes du Front National. Le Front National joue sur le fait que leur parti n'a jamais été associé au pouvoir central. Il en fait un avantage politique. Mais il rêve d'accéder à la Mangeoire, comme les autres. Les dirigeants du Front National sont aussi hypocrites et arrivistes que les autres. Depuis quelques années, ils ont compris que l'électorat réactionnaire composé d'anciens de l'Algérie française, d'antisémites nostalgiques de Vichy ou d'intégristes catholiques, ne leur permettrait pas d'accéder à la Mangeoire. Alors, la dynastie Le Pen s'est diversifiée. La famille, millionnaire, fait désormais dans l'indignation sociale. Elle dénonce le chômage, les bas salaires, les petites retraites, voire le CAC 40. Tout cela pour faire croire que Marine Le Pen défend les ouvriers. Mais elle fait comme tous les autres. Qui ne déplore pas le chômage? Qui ne dénonce pas les impôts qui pèsent sur les plus modestes? Tout le monde sait le faire, même et surtout ceux qui sont responsables de la situation. Verser des larmes de crocodile et faire des promesses est à la portée de tous les démagogues. Mais encore une fois, dans cette société, et surtout dans cette période de crise, tous ceux qui ne sont pas déterminés à faire payer la bourgeoisie et à s'en prendre au profit des grands groupes capitalistes et aux exploiteurs se préparent à gouverner contre les travailleurs. Et si Le Pen parvenait au pouvoir, eh bien elle ferait la politique de la droite en plus autoritaire. Le Pen ne s'en cache pas. Ceux qu'elle veut faire payer, ce sont les immigrés, c'est-à-dire un grand nombre d'entre nous, c'est-à-dire des travailleurs. Eh bien, ceux parmi les exploités qui envisagent de voter pour le Front National votent contre leurs propres intérêts. Parce que ce vote sera interprété comme l'exigence d'une politique plus dure contre le syndicat, plus dure contre les chômeurs, en faveur d'une politique hostile au syndicat, pardon, et aussi aux travailleurs qui veulent s'organiser et qui veulent se défendre. Alors, bien sûr, il faut dénoncer la politique de Hollande. Mais il faut que cette dénonciation vienne clairement des travailleurs et qu'elle se fasse sur la base de leurs intérêts. Et la droite et l'extrême droite n'ont pas le monopole de l'opposition. Les travailleurs peuvent faire entendre leur camp et leurs intérêts de classe en votant pour les listes lutte ouvrière. Quant à la gauche de la gauche, au Parti communiste ou à Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique qu'une autre politique est possible dans le cadre de cet ordre social injuste, ils ne méritent pas la confiance des travailleurs. Ils ont tous fait voter Hollande et ils l'ont cautionné. Je cite Jean-Luc Mélenchon. « Je félicite François Hollande pour son élection. Son avantage lui donne les moyens d'agir. » Voilà ce qu'il disait au soir du second tour, en mai 2012. Et encore aujourd'hui, le Parti communiste, comme le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, explique qu'il n'y avait pas le choix, qu'il fallait se débarrasser de Sarkozy. Mais qu'avons-nous au pouvoir aujourd'hui, si ce n'est la politique de Sarkozy? Tous les partis qui alternent au pouvoir font miroiter des 1000 et des 100 au moment des campagnes électorales. Pour une fois élus, piétiner leurs promesses. Au pouvoir, ils s'usent et ils finissent par décourager leur propre électorat, ce qui leur vaut de perdre les élections suivantes. Puis, dans l'opposition, c'est reparti pour un tour, renouvelant les mêmes promesses, véhiculant les mêmes illusions. C'est un éternel recommencement. Et c'est à ce cirque électoral que participent aussi le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, les travailleurs doivent dire qu'ils ne sont pas dupes. Ce ne sont pas avec des illusions que les travailleurs pourront se défendre, mais avec la conscience qu'au-delà du personnel politique, il y a la bourgeoisie, les licencieurs, les exploiteurs, et que c'est à ce pouvoir-là qu'il faut s'en prendre. On entend aussi beaucoup autour de nous parler de l'abstention. Certains électeurs veulent se réfugier dans l'abstention parce qu'ils se ressemblent tous, disent-ils. Et ils n'ont pas tort. Oui, tous les politiciens ont été formés et sélectionnés pour leur fidélité à la bourgeoisie et à ce système. Mais s'ils s'abstiennent, alors qu'ils ont la possibilité de dénoncer cela par leur vote, et il est possible de le faire en votant pour les listes lutte ouvrière, eh bien ils se bâillonnent, ils s'auto-censurent. En s'interdisant de les dénoncer, ils font le jeu de leurs ennemis. Dans combien de pays les électeurs n'ont d'autre choix que de voter pour un personnel politique choisi, soumis au pouvoir en place ? Dans combien de pays les travailleurs essaient de construire leur syndicat et leur parti et ne peuvent pas le faire parce que c'est la dictature ? Ici, ce n'est pas le cas. Alors il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand les travailleurs ont la possibilité de rejeter sans ambiguïté leurs ennemis politiques et d'affirmer leur propre politique, ils doivent le faire. Certains croient diminuer la portée du vote pour nos listes en le qualifiant de vote protestataire. Eh bien oui, c'est un vote protestataire, car il est plus qu'urgent de protester et de dire « ça suffit ». Mais c'est un vote utile, car c'est montrer que l'on ne se résigne pas au chômage, à la perte du pouvoir d'achat et à l'aggravation de l'exploitation. Non, ce n'est pas un vote défouloir, comme le disent certains avec mépris. C'est un vote préparatoire, car protester en appelant aux luttes des travailleurs, c'est préparer l'avenir. Voter pour les listes lutte ouvrière permettra aux classes populaires de montrer qu'il existe dans le pays une opposition ouvrière au gouvernement, qu'il y a des travailleurs conscients de leurs intérêts et des luttes à mener. Et au-delà de la dénonciation de la politique d'un gouvernement, ce vote montrera que l'on rejette l'ordre capitaliste dans son ensemble, qui est basé sur l'exploitation, c'est-à-dire sur le vol légal des travailleurs, et qui fait que l'enrichissement d'une minorité dépend de l'appauvrissement de tous les autres. Au-delà de la politique politicienne, ces élections permettent aux travailleurs, aux chômeurs, à la jeunesse, consciente du sort que le capitalisme lui réserve, de faire un geste politique sans ambiguïté. Elles permettent d'affirmer la dignité ouvrière, la fierté d'appartenir à une classe sociale qui produit tout, qui fait vivre la société et qui représente la seule voie pour que la société reparte de l'avant. Alors, votez et faites voter pour les listes de lutte ouvrière. La constitution de 204 listes lutte ouvrière est un encouragement. Cela n'aurait pas été possible sans le choix et sans l'engagement de plusieurs milliers de femmes et d'hommes des classes populaires de se présenter sur des listes qui se revendiquent clairement dans le camp des travailleurs. Cela ne représente qu'une petite partie des agglomérations plus ou moins importantes du pays. Mais notre présence est nettement plus importante que lors des municipales précédentes, et ce, dans un climat politique plus défavorable. Eh bien, c'est un gage pour l'avenir. L'écho que nos idées ont trouvé, malgré la démoralisation et l'écœurement général, montre ce que pourrait faire un véritable parti, présent dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans toutes les barres d'immeubles et dans toutes les entreprises. Alors, camarades, il nous reste 15 jours. Et je fais appel à la participation de tous pour convaincre leurs proches, discuter autour d'eux, dans leurs entreprises, avec leurs voisins. Et pour celles et ceux qui le veulent bien, pour distribuer des tracts, coller des affiches et pour apporter leur contribution à l'une ou l'autre des multiples activités propres aux campagnes électorales. Bien sûr, le résultat ne dépend pas seulement de nos efforts. Nous sommes dans une période politique où les idées de la bourgeoisie ont tellement pris le dessus que seule une minorité peut marquer sa sympathie pour la politique que nous défendons. Mais le problème n'est pas de faire des pronostics. Et ce n'est pas non plus de se décourager face aux faibles scores électoraux. Il faut commencer à agir par un bout. Nombre de travailleurs se retrouvent livrés à eux-mêmes, isolés et déboussolés, à cause justement du recul de l'activité militante. Eh bien, la constitution de nos listes montre qu'il suffirait de la présence de militants pour regrouper et entraîner ne serait-ce qu'une fraction de travailleurs à donner de la voix. Alors, nous avons à faire tout ce qui est dans nos possibilités pour que cette minorité soit la plus conséquente possible. Plus le nombre de ceux qui voteront pour nos listes sera important, plus les objectifs de lutte que nous proposons seront entendus. Et cela comptera pour l'avenir. Ce sera un encouragement pour ceux qui sont déjà convaincus que les exigences que nous défendons sont à imposer pour sauver la classe ouvrière de la déchéance matérielle et de la démoralisation. Un encouragement pour beaucoup d'autres, pour tous ces travailleurs qui subissent aujourd'hui les coups, mais qui n'ont pas encore assez confiance dans notre force collective. Et au-delà de la campagne pour les municipales et de celle des européennes, nous poursuivrons avec tous ceux qui se sont joints d'une façon ou d'une autre à ces campagnes, de sorte que de nouvelles fractions de travailleurs fassent du drapeau des travailleurs et des idées communistes leur propre drapeau. Un véritable parti ouvrier se développera, comme dans le passé, à travers bien des luttes, bien des grèves, bien des affrontements avec la bourgeoisie et son appareil d'État. Mais toute lutte politique peut constituer un pas en avant dans la prise de conscience des travailleurs et dans le développement du courant qui donnera naissance au parti. Et les campagnes électorales sont des luttes politiques. Elles permettent au camp des travailleurs de se faire entendre et de se confronter au parti de la bourgeoisie. Alors, dans les 15 derniers jours de cette campagne, saisissons-nous au mieux des possibilités qui nous sont offertes. Gagnons à ces idées de nouveaux militants, des femmes et des hommes qui, face à la crise de la société capitaliste, cherchent leur voie et ont envie d'agir. Alors, camarades, bon courage, vive le camp des travailleurs, vive le communisme !